tenu informé des faits et gestes de son invité, assuré qu'il était en paix, François Pinault se réjouit de n'avoir rien organisé petitement. Et il se sentait flatté d'accueillir Fabrice et voulait qu'il ne sentît aucun désagrément pendant ce séjour vénitien. Et c'est de lui-même qu'il avait proposé d'inviter le petit noyau à le suivre et à l'entourer de son affection. Ses membres avaient rendez-vous le 13 pour un départ à 20h33, gare de Paris-Bercy. Ils embarquèrent dans l'Artesia SNCF Trenitalia, avec ses wagons bleu nuit et ses employés aux uniformes galonnés d'or. Ils dînèrent ensemble au wagon-restaurant de ce traîneau noté, avant de se disperser dans leur compartiment, avec fauteuil de velours sombre, lavabo en porcelaine et large lit. Arrivés à Santa Lucia à 9h du matin, ils trouvèrent le grand canal au bas des escaliers. L'été et le soleil s'alliaient pour lui donner la transparence foncée de l'émeraude. Un vaporetto réservé à leur seule personne les conduisit dans les deux palazzini près du Ponte dell'Accademia, mis à leur disposition. L'équipe de travail était aussi de l'équipée ferroviaire. Tous profitèrent des charmes de Venise. Le premier soir, Farid, qui était toujours vierge, fut initié à l'amour par une vendeuse de verre de Murano qui cachait sous son grand châle noir à franges de bien séduisants trésors qu'elle lui apprit à prendre avec la délicatesse que les clients de sa boutique devaient utiliser pour les miniatures qu'elle proposait. Le lundi 15 au matin, Fabrice, François Pinault, la Proustforce, le petit noyau et le public se retrouvèrent à la Punta della Dogana. Le propriétaire avait tenu à laisser ouverts les sites d'exposition de l'ancienne douane de mer, et c'est en son centre même, dans le cube signé Tadao Ando, qu'étaient prévues les prestations de Fabrice. Et à l'issue de chaque journée, les terrasses du belvédère surplombant le canal de la Giudecca offraient un cadre somptueux à une réception. Les auditeurs de la fugitive à Venise, c'était à prévoir, ne ressemblaient en rien à ceux des épisodes précédents. L'ouverture au monde avait marqué son empreinte. Il y avait là des businessmen américains cultivés, des héritières allemandes érudites, une poignée d'intellectuels fortunés, des élégantes argentines diplômées, la fine fleur de la prousterie japonaise, quelques Italiens distingués, une délégation de la brillante revue Artistique Africa venue de Cotonou et d'Accra. Même s'il y avait toujours eu un lot d'abonnés à chaque séance, ils étaient minoritaires. À Venise, la proportion était inversée. Les auditeurs de passage étaient l'exception, mais tous partageaient le désir de Venise que le héros de Proust exprime et vit de façon extatique dès son enfance quand son père propose de l'y envoyer. Cette connivence créait des liens, gommant toutes les frontières, réunissant tous les milieux, même si rares étaient les représentants estampillés du prolétariat. On se serait cru à un défilé de haute couture à Milan, à l'ouverture de l'Art Basel, au forum de Davos ou à quelques réceptions privées chez un magnat émirati. Le petit noyau y baignait avec d'autant plus d'aisance que chacun de ses membres, pour la plupart d'extraction modeste, était jalousé par ses puissants. Les plus caustiques de ses envieux les avaient baptisés les jeunes filles en fleurs. Un autre, plus en phase, avait préféré les qualifier de « conseil des 10 du Doge Marcel. On ne pouvait faire plus smart. Comme une cravate était souhaitable et qu'il n'en avait pas, Farid se vit offrir une cravate par la belle-fille du mécène qu'elle noie elle-même. Si Salma Hayek est mon habilleuse pour une cravate, se vanta-t-il, qui viendra à mon aide le jour où je devrais porter un nœud papillon ?